Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Tournepage. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un écrivain dont la vie ressemble à un roman qu'aucun écrivain n'aurait pu imaginer. Dostoïevski, Fyodor Mikhaïlovitch, est né en 1821. Il est né dans un hôpital, non pas parce que c'était la mode de naître dans un hôpital, mais parce que son père était major dans les hôpitaux militaires. Il est donc né dans cet hôpital, ainsi que son frère aîné, Michel. Et petit à petit, son père est devenu acheter deux propriétés rue à Aral, au pas très importante, mais qui comptait quand même 170 âmes. Je vous rappelle qu'en Russie, les âmes, c'était les hommes. En réalité, 170 âmes, ça voulait dire 170 foyers. En 1837, sa mère meurt. Lui-même et son frère Michel sont à Saint-Pétersbourg, à l'école du génie. Déjà, il demande beaucoup d'argent à son père. Et puis, le 8 juin 1839, le corps de son père est retrouvé au bord d'un fossé, au bord de la route. Il a été étouffé. Ses testicules ont été écrasés. Il s'agit des paysans qui se sont révoltés contre la dictature du père de Fyodor Dostoïevski. Officiellement, on mettra ça sur le compte d'une apoplexie pour éviter de faire une enquête qui aurait amené la déportation de deux villages. Et Dostoïevski va sous la tutelle de son beau-frère. Il mène une vie de bohème. Il fait des dettes, il emprunte. Il est nommé sous-lieutenant à la direction du génie. Et puis en 1844, il prend sa retraite. Il a le grade de lieutenant. Il a des tas de projets. Et puis, en 1846, il s'affirme comme écrivain. En écrivant un livre qui aura un succès considérable, Les pauvres gens. Peu de temps après, en 1848, il va écrire Les nuits blanches. Au passage, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir ou revoir le film qu'on a tiré Lucchino Visconti dans les années 60, pardon, excusez-moi. Et il fréquente un cercle, un cercle pas très méchant, dirigé par un nommé Petrachevski, où on parle beaucoup de libération du servage, on parle beaucoup de la condition paysanne, mais le tsar Nicolas Ier n'est pas d'humeur à supporter ce genre de réunion, et les membres du cercle sont arrêtés, dénoncés par un mouchoir. Dostoïevski est arrêté. Il sera emprisonné à la forteresse Pierre et Paul, à Saint-Pétersbourg, dans le Ravelin Alexis. Pourquoi Alexis? Parce que c'est là qu'a été emprisonné, jugé et exécuté le fils du tsar Pierre Ier, Alexis. 15 peines de mort sont prononcées. Et alors là, une mise en scène épouvantable a lieu. On amène les condamnés devant l'échafaud. Ils sont rangés par trois. Dostoïevski au deuxième rang. On fait monter les condamnés, les premiers et les trois premiers sur l'échafaud. Et à ce moment-là, quelqu'un vient annoncer que le tsar a accordé sa grâce. Imaginez l'attente de quelqu'un qui pense qu'il n'a plus que quelques minutes à vivre et à qui on vient annoncer qu'il est gracié. Alors la nuit de Noël, on lui pose les fers aux pieds, 10 livres. Il va les garder pendant 4 ans. 4 ans avec les pieds enchaînés. Et les les condamnés sont amenés en exil. Ils font une halte à Tobolsk. Et là, un événement important dans la vie de Dostoïevski. La princesse von Wisin, qui était l'épouse d'un des Sambristes légers, cet officier qui s'était révolté contre Nicolas Ier en 1825, vient lui rendre visite. Elle lui remettra notamment un Nouveau Testament, dans lequel il y a un peu d'argent. Et voici ce que Dostoïevski lui a écrit. De moi, je vous dirais que je suis un enfant du siècle, un enfant de l'incroyance et du doute. Jusqu'à présent, et même, je le sais, jusqu'au tombeau. Quelle terrible souffrance m'a coûté et me coûte maintenant cette soif de croire qui est d'autant plus forte en mon âme qu'il y a davantage en moi d'arguments contraires. Et cependant, Dieu m'envoie parfois des minutes où je suis parfaitement tranquille. Et c'est dans ces minutes que je me suis composé un credo dans lequel tout est pour moi clair et sain. Ce credo est très simple, voici, croire qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus sympathique, de plus raisonnable, de plus viril et de plus parfait que le Christ. Et que non seulement il n'y a rien, mais je me dis avec un amour jaloux qu'il ne peut rien y avoir. Bien plus, s'il m'a démontré que le Christ est hors de la vérité et qu'il fut réel, que la vérité est hors du Christ, alors j'aimerais mieux rester avec le Christ qu'avec la vérité. Ce Nouveau Testament que lui a remis la princesse von Wisin, Dostoïevski le gardera toute sa vie. En 1854, on le détache des fers, il redevient un simple soldat, il est envoyé à une petite ville qui s'appelle Semipalatinsk. Et là, il fait la connaissance d'une femme, Marie Dmitriana Isayeva, qui est mariée, qui a un fils, Paul Pacha. En 1855, le mari de Marie Dmitriana meurt. Et il se marie avec elle en 1857. Et là, peu de temps après son mariage, a lieu la première attaque d'un mal qui va le poursuivre jusqu'à la fin, l'épilepsie. Quand il s'est marié, il ne savait pas qu'il était épileptique. Il dira plus tard que s'il avait su, il ne se serait pas marié. En 1859, il est autorisé à rentrer en Russie, mais pas dans les ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg. Et en 1860, il va écrire un livre qui a un succès énorme, qui s'appelle « Souvenir de la maison morte », qu'on a parfois traduit en français par Souvenir de la maison des morts. En 1861, il a écrit un autre livre qui aura du succès, Humiliés et offensés, où il aborde la question de la place de l'homme dans la vie et dans la société. Signalons que 1861, c'est aussi l'année où le tsar Alexandre II, le nouveau tsar, aboli le servage. Cette même année, il devient l'amant de Polina Sozova, une personnalité étrange. Et ils vont partir, tous les deux, avec Polina Sozova. Ils vont partir à l'étranger. Et c'est là que Dostoïevski découvre qui allait être son obsession pendant presque 10 ans, la roulette, le jeu. Sa passion pour le jeu va durer, je vous l'ai dit tout à l'heure, presque 10 ans. Et endetté, parfois sans un sou pour rentrer chez lui, sans un sou pour prendre un moyen de transport, sans un sou pour s'acheter des vêtements ou de la nourriture, il s'adresse à tout le monde, à des éditeurs, à sa famille, pour avoir de l'argent. En 1864, sa femme, qui était restée en Russie, meurt. Peu de temps après, son frère aîné meurt. Et alors, il va prendre en charge non seulement le fils de sa première épouse, Paul, mais aussi la famille de son frère aîné. En 1865, paraît Crime et Châtiment. Crime et Châtiment, je pense qu'il n'est pas utile de vous le présenter, mais simplement pour mémoire, l'adaptation théâtrale a eu en France un succès considérable. Et puis, en 1866, se produit un événement dans sa vie. Il a promis à son éditeur de lui fournir un manuscrit au plus tard le 1er novembre 1866. Or, au 1er octobre, il n'a toujours rien écrit de ce livre. Et c'est un ami qui lui conseille de faire appel à une dactylo. Cette dactylo, ce sera Anna Grigorievna, qui sera sa deuxième épouse et qui vivra avec lui jusqu'à la fin. Signalons pour l'anecdote que l'éditeur en question, qui avait précisé que si le manuscrit n'était pas livré à temps, tous les livres à venir de l'écrivain lui seraient automatiquement attribués. L'écrivain en question n'était pas là le 31 octobre. Et, sur les conseils d'un ami avocat, Dostoïevski, à 11h du soir, le 31 octobre, a déposé le manuscrit au commissariat de police. La manœuvre de l'éditeur avait foiré. Ce manuscrit, ce sera Le Joueur. Alors, Le Joueur, à titre d'exemple, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir ou à revoir l'adaptation qu'en a faite Claude Autant-Lara en 1958 avec, dans le rôle principal, Gérard Philippe. En 1867, c'est le mariage. Le couple quitte la Russie pour 4 ans. Et Dostoïevski va être très marqué par deux tableaux. À Dresde, il s'agit de la Madone Sixtine de Raphaël. À Bâle, le Christ mort de Hans Holbein. En 1868, paraît un autre roman, L'Idiot. Pareillement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à revoir le film qu'on a tiré Georges Lampin en 1946 avec, dans le rôle principal, Gérard Philippe. Après avoir renoncé définitivement au jeu, Dostoïevski va publier Les Démons en 1873. Et puis, il va publier, soit dans les journaux, soit après, une fois que c'est paru dans les journaux, en livre séparé, Le Journal d'un écrivain. En 1878, il va rencontrer le Starrett Sambroise, qui sera un modèle pour le père Zosime des frères Karamazov. Le Starrett, je vous rappelle, c'est ces personnalités qui ne sont pas forcément religieuses, qui ont un rayonnement énorme en Russie à cette époque. Et en 1879, commence à être publié les frères Karamazov. En 1880, il y a l'inauguration d'un monument à Pushkin et Dostoïevski, à cette occasion, prononcera un discours qui va marquer des esprits. Voici un extrait très court. Être un vrai russe, être pleinement russe, cela ne signifie peut-être pas autre chose que d'être le frère de tous les hommes, d'être un citoyen du monde, si l'on veut. Ce discours sera applaudi par tout le monde. Et puis, le 28 janvier 1881, Dostoïevski meurt. Sa femme s'occupera jusqu'à la fin de sa vie de la publication de son œuvre. Elle est morte en 1918. Je vous remercie de m'avoir écouté.